Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Thibaut Giangrande.
Génération After spécial drôle de dame en ce dimanche soir. Paulo Breitner, Fred Hermel, Julien Laurence et Yoann Crochet sont là jusqu'à 22h ce soir. Ensuite, ce sera l'After, Gilbert Bribois, Florent Gautreau, Walida Cherchour dans un quart d'heure. Vous avez la parole, le 32-16, vos questions aux drôles de dames, la minute de Fred à suivre, mais d'abord, alors que c'est la mi-temps entre l'AS Rome et la Juve, toujours un but partout, le point sur la course au maintien en Serie A avec toi, Johan. Et là, ça va être beaucoup plus serré que dans le haut du tableau.
Ouais.
6 équipes, voire 7 sont concernées.
Ouais, 6 clubs en 4 points, alors on peut estimer après cette journée que Lecce a un petit matelas quand même d'avance et que j'ai tendance à les mettre un peu en dehors de cette lutte-là. Mais on a surtout Sassuolo, Udinese, je pars du bas, hein, Sassuolo, Udinese, Empoli, Hellas Vérone, Frosinone et Cagliari. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à la 37e et 38e journée, il y a Sassuolo, Cagliari, Udinese, Empoli, Frosinone et Udinese. Donc que des rencontres
confrontation directe,
voilà, merci, entre les clubs qui luttent pour le maintien. Donc ça va être assez intéressant et très tendu, surtout je pense ces matchs-là à venir. Alors je vais m'arrêter juste très rapidement sur deux clubs pour vous donner deux situations différentes. On a parlé de Sassuolo la semaine dernière dans la minute, donc cette semaine on va parler rapidement de Cagliari et de l'Udinese. Et parce que Cagliari, ce qui est intéressant de voir, c'est comment les Italiens qui sont pas concernés directement par ces clubs-là, donc pas supporters de ces clubs-là, évoquent cette lutte pour le maintien. Et ils expliquent notamment que il y en a qu'ils aimeraient voir descendre et d'autres qu'ils n'ont pas envie de voir descendre. Et il y a une très forte différence, pardon, entre Cagliari et l'Udinese. Et Cagliari, en fait, c'est pas tant pour Cagliari en le club, parce que c'est un club très identitaire, c'est des Sardes, et parfois il y a des vrais affrontements avec des Italiens du continent, du nord de l'Italie, entre guillemets, et Cagliari, il y a beaucoup d'Italiens qui veulent voir le club se maintenir pour une personne, Claudio Ranieri, qui est l'entraîneur de Cagliari, parce que Claudio Ranieri a une très belle image en Italie, parce que c'est quelqu'un déjà de foncièrement sympa, qui a jamais été un révolutionnaire dans le foot, c'est pas quelqu'un qui fait pratiquer un football dantesque à ses équipes, etc. Mais c'est quelqu'un qui a une bonhomie certaine, qui est toujours agréable, courtois, bien éduqué, etc. Et c'est quelqu'un qui a réussi à développer une très belle image, à l'instar d'un Carlo Ancelotti, pour d'autres raisons. Lui gagne en plus, Ancelotti, beaucoup. Mais c'est deux des entraîneurs qui sont préférés des Italiens. Et l'Udinese, à l'inverse...
Il n'y a pas Rudy Garcia dans le...
Rudy Garcia, il y a encore des gens à Rome qui l'aiment beaucoup. À Naples, très peu. Et l'autre club, c'est l'Udinese. Et l'Udinese, c'est un peu l'inverse. C'est qu'il y a beaucoup d'Italiens qui veulent voir ce club descendre. Pour, mon cher Julien, les Pozzo, la famille Pozzo, qui possède ce club-là, qui a fait un des premiers à faire de la multipropriété en Europe, avec à l'époque Grenade et puis Watford, évidemment, parce que c'est un certain modèle de développement à travers de beaucoup de trading et du trading pas toujours très sain, où on fait comprendre aux joueurs, allez, viens à Udine, t'inquiète, dans 2 ans, on écrit ça sur le contrat, tu pourras aller à Watford en première ligue, s'ils sont en première ligue, ou sinon en championship, s'ils sont en championship, et avec la vue sur la première ligue, évidemment. Donc, ils ont fait passer l'Udinese et d'un club qui était très intéressant à un club de passage. Et ça, il y a beaucoup de gens en Italie qui ont une vraie culture foot, qui ont du mal à accepter ça. Et puis aussi pour un jeu catastrophique. Ça fait plusieurs saisons que c'est l'une des équipes les plus
pénibles.
Pénible, merci, ouais, avoir joué avec du jeu comme on le faisait dans les années 80 en Angleterre. On balance tout sur l'attaquant qui est plutôt bon de la tête et on attaque les deuxièmes ballons. Beaucoup de dynamisme, beaucoup de course, mais quand le ballon est dans les pieds, c'est pas forcément génial. Donc dans cette lutte pour le maintien, tout le monde en Italie prend un peu son petit club qu'il a envie de voir maintenir et le club qu'il a envie de voir descendre.
Et ça c'est partout pareil. Hein. En Espagne, on a aussi des goûts comme ça pour des clubs, notamment. Puis il y a ceux aussi qu'on veut voir monter de deuxième à première division, quoi. Il y a des historiques comme ça. Que...
Bah en France, je pense qu'on aimerait tous voir remonter Bordeaux, Saint-Etienne. Il y a Auxerre qui remonte.
Ah, Auxerre, c'est déjà fait, pardon. Ouais, on a déjà pris une place.
Non mais sérieusement, franchement, Bordeaux, ça, bah, surtout Saint-Etienne, enfin, ne pas avoir Saint-Etienne en Ligue 1. Enfin, je veux dire, c'est un problème.
Et d'ailleurs, Udinese.
Mais on est moins sur les descentes. Tu vois, par exemple, là, sur la, tu regardes la descente en France, t'as Lorient, Metz, Clermont, Le Havre, Nantes. Bon, là, il n'y a pas de front commun pour vouloir descendre ou sauver un club non plus, quoi.
Donc, demain soir, horaire normalement des drôles de dames, il y a Udinese et Napoli, l'Udinese et qui a mis sur le banc il y a une dizaine de jours, Fabio Cannavaro, pur napolitain, supporter du Napoli, avec son frère notamment Paolo Cannavaro, des vrais napolitains, donc match un peu crève-cœur, besoin de points pour l'Udinese et peut priver totalement le Napoli de Coupe d'Europe la saison prochaine.
Fabio Cannavaro, l'un des mecs les plus sympas que j'ai rencontré dans le foot. Type fabuleux.
Ouais, en 2006, il a été un peu relou quand même, mais c'est normal.
Bah, alors après, je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec lui dans le. Enfin, Ballon d'Or quand même, hein. Eh oui. Il avait le Ballon d'Or parce qu'il avait porté la coupe. C'était l'un des moins justifiés.
C'était peut-être pas l'Italien. Non. C'était peut-être pas cet Italien-là qu'il fallait donner.
Ouais, mais c'est celui qui a soulevé le trophée. Et ça, ça compte pour l'image. Et je lui avais dit quand même, votre jeu à la con et tout ça. Là, il fait. Puis il me regarde et il me dit, tu veux voir les étoiles qu'il y a sur mon maillot en jouant comme ça?
Insupportable.
Non, mais c'est. Tu vois, là, écoute, tu réponds à ça.
Rapidement, il y a Nico dans le chat qui demande si l'Udinese descend, est-ce que Thauvin peut rester en série B ou...
Non. Je ne vois pas. Déjà rien que pour une question contractuelle, ouais, ça me semble extrêmement faisable. Là.
La course au titre est d'ailleurs 32-16. Hein, si vous voulez poser vos questions dans quelques minutes, les drôles de dames sont à vous. Julien, la course au titre en Première Ligue, Arsenal a gagné, City a gagné, un week-end pour rien, quoi.
Ouais, un week-end sympa quand même. Un week-end sympa, mais effectivement un week-end où on n'a pas eu de changement. En tête de la Première Ligue, on reste avec un point d'avance pour Arsenal, avec City qui reste derrière, mais avec un match de plus à jouer contre Tottenham dans dix jours de ça, avec une différence de but toujours légèrement plus 6, donc supérieur pour Arsenal qui a marqué 3 buts contre Bournemouth à domicile en portant 3-0 face à cette équipe de City qui a défoncé Wolverhampton à domicile avec un quadruplé, merci Yo, avec un quadruplé de Erling Haaland. Vous savez, le joueur qui avait le niveau d'un joueur de 4ème division, comme nous l'avait appelé Roy Keane il y a quelques semaines de ça, et qui est donc revenu à un très très bon niveau, même s'il y a quand même 2 pénaltys sur les 4 buts. Donc voilà, il n'y a aucun changement finalement, sauf que, comme on le dit maintenant depuis plusieurs semaines, ça reste entre les mains de City et que City pourrait terminer champion avec un point d'avance s'ils remportent tous leurs matchs, les 3 qui restent. Maintenant, à Fulham, à Tottenham et à domicile contre West Ham, quand pour Arsenal, il reste que 2 matchs à l'extérieur à Manchester United et ensuite pour finir à domicile contre Everton. Donc on verra si City va craquer un moment, on verra si Arsenal va craquer. Alors les 2 gros matchs semblent être le week-end prochain, donc dimanche prochain à Old Trafford pour Arsenal contre United, et puis à Tottenham pour City, même si cette équipe de Tottenham, on l'a dit, qui a défaite de suite en perdition totale. Donc j'ai du mal à voir où City pourrait perdre des points, mais tant que les matchs n'ont pas été gagnés au coup de sifflet final de l'arbitre, il y a toujours un risque forcément, il y a toujours un espoir pour Arsenal et pour City à gérer cette pression aussi.
Est-ce qu'il a retenu plus ton attention ce week-end, Julien, c'est ce titre très honorifique remporté par Phil Foden, joueur de l'année élu par les journalistes. La saison n'est pas finie.
Ouais, c'est ça. Alors, c'est ça qui me gêne un tout petit peu, parce que sur le fond, qu'il soit nommé meilleur joueur, il n'y a pas vraiment de débat finalement. C'est la meilleure saison de sa carrière. Il a 23 ans, c'est 24 buts et 11 passes d'aise en 49 matchs, toutes compétitions confondues. C'est du très très haut niveau. C'est assez incroyable d'ailleurs les paliers qu'il a franchis cette saison. L'importance qu'il a dans cette équipe de City, mais aussi globalement dans son jeu. Donc sur ce point-là, je suis tout à fait d'accord. Alors il y a deux titres de joueur de la saison, un par les joueurs eux-mêmes, donc ce sera plus tard, et celui par les supporters, par les journalistes, pardon, comme tu l'as dit, qui est très important, la presse, les médias sont très importants. C'est un titre que les joueurs aiment aussi remporter. Donc c'est très important. Ce qui me gêne un tout petit peu, c'est qu'on l'a dit, il reste 2 matchs, ça dépend pour qui. Et que
qu'est-ce qui se passe si
Arsenal est champion. Si Arsenal est champion et que Bukayo Saka marque 3-2 hat-trick dans les 2 derniers matchs, 2 triplés pardon Polo dans les 2 prochains matchs. Voilà, ou si Martino Degaard le fait, ou Declan Rice,
Est-ce que tu enlèves quand même imaginons Foden rate ses 3 derniers matchs, tu restes quand même sur une impression sur cette saison où il a été stratosphérique quand même. Peut-être au-dessus de Saka ou Degaard, non?
Ben oui, peut-être, sauf que si Odegaard amène le titre à Arsenal pour la première fois depuis 20 ans, alors que Foden, ce serait le 4ème de suite, dans une équipe qui est archi dominatrice depuis l'arrivée de Guardiola maintenant. Je sais pas, pour moi, Odegaard qui amène Arsenal au titre avec la saison qu'il fait en plus, ça voudrait aussi dire beaucoup. Donc voilà, mais encore une fois, sur le fond, il n'y a pas de débat sur le fait que Foden mérite de remporter aussi ce trophée-là, parce qu'il a été extraordinaire, comme tu l'as dit. Mais voilà, pour moi, l'équipe qui est championne, souvent le titre de meilleur joueur, ou en tout cas le meilleur joueur, doit appartenir à cette équipe-là. C'est pour ça que j'aurais attendu, personnellement, de savoir qui est champion. Ah oui. Parce que je pense que ça aurait aussi une influence sur le vote des journalistes, le choix des journalistes.
C'est-à-dire pour toi, le ballon d'or, forcément, que ce soit le joueur qui a gagné le plus de trophées dans l'année, quoi. C'est ça.
Non, mais ça, c'est différent. Parce que là, tu parles de, là, c'est le choix du meilleur joueur anglais. Pour le ballon d'or, c'est tous les championnats réunis. C'est aussi la Ligue des Champions. C'est la Coupe du Monde quand il y en a une. C'est l'Euro. Il y a beaucoup plus de choses qui entrent en jeu. Qu'une saison domestique qu'on peut l'avoir dans chacun de nos championnats.
T'as voté pour lui ?
Je vote pas, moi. Ah, je pas,
ah bon ? Ouais. Une star comme toi ne vote pas là-bas. Quoi.
Je vote pas. Je vote un moment, mais je vote plus. Okay.
21h43, les drôles de dames dans un instant, le 32-16, vous avez la parole. Vos questions, Apollo, à Fredo, à Johan et à Julien, mais d'abord la dernière minute de la soirée, la minute de Fred. Una noche guaraní de guitarras y de canto, tú no me quisiste a mí y yo te quería tanto. Julio,
t'avais pas mis du Julio Iglesias cette année?
Non.
Je te rappelle, ancien gardien du Real Madrid.
Mais tu vois, on en a parlé un peu dans l'émission. Je préférais les sons.
Voilà,
ma mère m'a fatigué avec cette chanson.
Elle est magnifique. Alors, Julio Iglesias, qui a été gardien hein, des jeunes du Real Madrid et qui s'est mis à la chanson, ce qui a eu un grave accident de voiture. Il est resté sur un lit pendant un an. Et donc, il a commencé à chanter sur son lit d'hôpital et il a réussi pas mal la carrière hein, au niveau de la chanson. Blanca Paloma, la colombe blanche. Pourquoi j'ai choisi cette chanson? Parce que le football espagnol, plutôt la ministre Pilar Alegría, qui est la ministre de l'éducation et des sports en Espagne, et le conseil des ministres espagnols ont choisi une colombe blanche pour essayer de pacifier un petit peu la fédération et toute l'image que donne la fédération espagnole. Vicente del Bosque. Voilà ce qu'on a présenté comme un homme aimé, respecté. Vicente del Bosque, qui est devenu, parce que je lis parce que c'est quand même spécial, le président de la commission de supervision, de normalisation et de représentation du football espagnol, de la fédération espagnole, parce que je vous rappelle que l'ancien président Rubiales est poursuivi pour l'histoire du baiser forcé à Gianni Hermoso, mais aussi pour plein d'histoires de malversations, que Pedro Rocha, le président actuel qui est en intérim jusqu'aux prochaines élections, lui aussi est au cœur d'une enquête pour ces mêmes histoires pas très claires de prise illégale d'intérêt et de corruption. Et donc, il fallait quelqu'un pour représenter un petit peu le foot espagnol. Et quelqu'un, par exemple, notamment pour aller à la finale de Ligue des Champions, pour aller à l'Euro, pour aller aux Jeux Olympiques. Eh ben, le ministère et le gouvernement a choisi quelqu'un qui fait à peu près l'unanimité en Espagne, ancien entraîneur du Real, mais surtout sélectionneur de l'Espagne, champion du monde en 2010, Vicente del Bosque. Donc, c'est plutôt bien de pas avoir un
mec. Ça va pas plaire à l'UEFA, ça, par contre.
Alors, tu as raison de lancer ça. L'UEFA regarde ça de très, très près. Et il y a toujours un risque.
Ils aiment pas l'ingérence
et que les clubs espagnols puissent être en dehors de l'UEFA, enfin, c'est l'UEFA, la FIFA, c'est tout ça. C'est tous les organismes internationaux qui n'aiment pas. C'est surtout la FIFA d'ailleurs qui regarde ça, les ingérences. Mais oui, c'est pour FIFA, ça que le gouvernement fait très très attention.
Johan.
Juste 20 secondes. En Italie, on parle d'une intervention du gouvernement pour créer une sorte de commission aussi pour valider les licences des clubs au niveau économique pour s'inscrire à la Serie A. Et là encore, l'UEFA et la FIFA. Ouais. Vont regarder ça de très près si ça arrive.
C'est de l'ingérence.
Les clubs sont totalement contre cette commission ou ce département que veulent mettre en place le gouvernement. Et ça pourrait créer des problèmes aussi.
Ça va repartir entre la Roma et la Juve, le match du soir en Italie. Un but partout, 21h46, le dernier quart d'heure de ce Génération After spécial Drôle de Dame pour conclure votre week-end. Le 32-16 pour le conclure de la meilleure des manières. Vous venez poser vos questions au Drôle de Dame tout de suite sur RMC.